Alors bonjour à tous, ça fait quelques semaines, je vous apprends rien que dès qu'on allume la télé ou la radio, on a juste l'impression de voir le mal, encore le mal, toujours le mal, et on en vient à se demander, mais comment c'est possible que des humains comme nous, des êtres humains comme nous, en viennent à agir comme ça? Comment c'est possible que des créatures de Dieu en viennent à rechercher autant la souffrance, la destruction? Ça paraît insensé, ça paraît incompréhensible. Et plusieurs personnes sont venues me voir ces derniers temps, pas mal en fait, pour me demander, est-ce que ces gens agissent vraiment de leur plein gré? Ça paraît tellement incroyable, hallucinant, qu'on se demande si est-ce qu'il n'y aurait pas une influence démoniaque peut-être derrière. Beaucoup m'ont posé cette question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un démon qui serait en eux, qui les forcerait à faire ça? Parce que comment des humains peuvent le vouloir? Alors je pense que pas mal d'entre nous en sont peut-être venus à se poser ce genre de questions. Peut-être pas aussi précisément que ça, mais on en vient à se poser ce genre de questions. Et c'est pour ça que durant les deux derniers dimanches, on a étudié ensemble un thème un peu particulier, celui du diable et des démons. Nous avons vu, pendant ces deux dimanches-là, qui ils sont. Ce sont, d'après la Bible, des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Nous avons vu ce qu'ils sont capables de faire, ou ce qu'ils ne peuvent pas faire aussi également. Nous avions vu que dans la Bible, il nous est dit qu'ils sont puissants, mais restent limités, parce qu'au fond, ce sont simplement des créatures, comme nous le sommes aussi. Nous avons vu également comment ils agissent sur les humains, principalement en suggérant, en tentant, en proposant une alternative aux hommes qui n'est pas celle que Dieu désire. Nous avions vu que la Bible, finalement, aussi n'en parle presque pas, tellement les démons sont insignifiants devant Dieu, tellement ils lui sont inférieurs, parce que seul Dieu est tout-puissant. Dieu n'a aucun rival, rien ne peut lutter avec Dieu. Et la Bible nous pousse donc avant tout à rechercher la paix, le salut, le pardon et la vie auprès de Dieu. Nous ne devons pas vivre dans la crainte d'un quelconque démon, nous devons vivre dans la présence de notre Seigneur et rechercher sa volonté. Nous avons passé deux prédications sur le sujet et j'hésitais beaucoup à en faire une troisième. Parce que ça fait un peu lourd, peut-être, sur ce sujet-là, faire trois prédications sur un sujet qui, en plus, est finalement si peu présent dans la Bible. Mais devant toutes les questions que j'ai eues cette semaine, je vais quand même en faire une troisième, promis, ça sera la dernière, qui, comme les deux précédentes, sera une prédication plutôt thématique, donc où j'ai dû balayer pas mal de textes bibliques, on s'arrêtera pas sur un seul en particulier, on en lira quelques-uns, mais où j'ai balayé de manière assez large. Et cette prédication va porter sur ce qui concernait en fait toutes les questions que j'ai eues cette semaine, qu'on m'a posées, ce qui est peut-être le plus mystérieux des moyens d'action qu'ont les démons sur les humains et dont nous parle la Bible. Je veux parler de ce qu'on appelle, là, attention le mot bizarre, démonisation. Je pense que vous avez jamais entendu parler de ce mot. Alors qu'est-ce que j'appelle démonisation? La démonisation, c'est en fait quand une personne subit l'influence ou l'action directe d'un démon. Alors, dans le langage courant, ce que vous avez peut-être entendu plus souvent, on parle de possession. Vous savez, on dit cette personne, elle est possédée. Ça, on l'entend souvent. Mais cette manière de parler, la possession, c'est pas adapté. Ça marche pas, en fait. Parce que quand on parle de possession, on a l'impression que la personne appartient maintenant à l'influence qu'il y a sur elle, au démon peut-être, dans cette occasion-là. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Le démon ne possède pas la personne, elle ne lui appartient pas, il ne fait qu'agir très fortement sur cette personne. Mais il la possède pas, elle n'est pas à lui. C'est pour ça que je ne vais pas utiliser l'expression de possession, je vous encourage à pas l'utiliser non plus, parce que elle est fausse. Mais le mot démonisation, l'action d'un démon en fait, voilà, c'est tout. Elle est plus adaptée. Donc la démonisation, c'est une action forte d'un démon sur une personne. Définition assez simple. Et avant de rentrer dans les détails, j'aimerais savoir si finalement c'est un sujet important ou pas dans la Bible. Est-ce que la Bible parle beaucoup de cas de démonisation ? Eh bien, j'aimerais vous poser la question à vous. Là, maintenant, s'il vous plaît, je vous pose cette question. Donc, levez la main ceux qui pensent que la Bible parle quand même assez fréquemment de cas de démonisation. Levez la main si vous le pensez. Si vous pensez que la Bible parle assez fréquemment. N'ayez pas peur, hein. C'est pareil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des mains qui se lèvent, qui se baissent, certaines personnes qui osent pas, certaines qui la lèvent franchement. La fréquence, si vous pensez, vous, je sais c'est assez subjectif, hein, mais si vous considérez que quand même c'est assez présent, quand même la Bible en parle, quand même pas mal, globalement, dans le message biblique. Il y a quand même quelques mains qui se lèvent, effectivement, vous pouvez baisser, merci. Eh bien en fait, c'est comme pour le sujet global de Satan et des démons, on va voir ensemble... On a parfois l'impression qu'elle en parle beaucoup, la Bible, parce que ces passages-là, on les lit assez régulièrement, mais en fait, elle en parle presque pas. Alors, prenons la Bible dans son ensemble, et tout d'abord, l'Ancien Testament, c'est quand même la plus grosse partie de la Bible, hein, ça fait un bon deux tiers du message biblique. Alors, est-ce que l'un d'entre vous, je continue à vous poser des questions, je vais vous faire participer un peu ce matin, est-ce que l'un d'entre vous peut me donner un exemple de cas de démonisation rapporté dans l'Ancien Testament ? J'ai entendu Saül. Effectivement, à la rigueur, et je précise bien à la rigueur, on va voir ça pourquoi ensemble, le cas du roi Saül, c'est pas faux, mais je répète bien à la rigueur. Je m'explique. On va d'abord faire ce cas-là, je vous reposerai la question après. Saül était le tout premier roi d'Israël. C'est Dieu qui l'avait nommé roi, qui l'avait choisi, qui l'avait établi comme roi sur son peuple. Mais Saül s'est très vite mis à désobéir à l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'avait établi pour le servir et pour diriger son peuple, mais lui n'a pas obéi. Alors, le Seigneur a décidé de se choisir un autre roi qui lui serait fidèle, et il a choisi le roi David, le célèbre David qui a tué le géant Goliath dans un récit biblique. Alors lorsque Dieu choisit David, eh bien il abandonne Saül. Le texte nous dit que Dieu abandonne, que Dieu se retire de Saül pour choisir David et l'établir comme roi. Et le texte biblique nous dit ceci en 1 Samuel 16: l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Donc effectivement, il y a ici une action directe d'un mauvais esprit, nous dit le texte, on peut comprendre ça comme un démon, mais c'est quand même assez spécial, parce qu'ici ça intervient en sanction, en punition pour toutes les désobéissances de Saül. Ça intervient de manière un peu spéciale parce que c'est Dieu qui permet spécifiquement que cet esprit vienne enquiquiner la vie de Saül à cause de toutes les désobéissances qu'il a eues. Donc effectivement, c'est dans les faits un cas de démonisation, mais on peut le comprendre comme ça, mais le but et les raisons en sont quand même assez particulières. Ça vient en sanction des désobéissances de Saül. Voilà pour ce cas, est-ce que vous en auriez d'autres ? Saül, quand il invoque les morts, est-ce qu'il y a un moment d'action d'un démon en lui ? Ça, c'est un cas de divination. C'est pas un cas de démonisation, du coup. J'ai entendu Caïn. Caïn, le texte biblique, nous parle pas de démon, ni d'esprit mauvais. Dieu dit simplement à Caïn : le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi. Mais toi domine sur lui. On ne nous parle pas de démons, on nous parle juste de ce que nous avons, nous, en continu, quand nous sommes titillés par le bien, le mal. C'est pas forcément un démon sur notre épaule qui vient nous parler, on avait vu ça les dimanches d'avant. C'est juste que nous avons le mal en nous aussi également. Nous sommes capables de faire beaucoup de bien, mais beaucoup de mal, et Caïn avait un choix à faire. On ne nous parle pas de démons dans le texte biblique. Est-ce que vous auriez un autre cas, peut-être ? Jézabel. On peut relire toute la vie de Jézabel, cette reine très 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 mauvaise, Eh bien, le texte ne nous parle pas de démons. Il n'y a pas d'esprit mauvais à l'œuvre. Comment ? Adam et Ève. C'est un cas simple de tentation. Il n'y a pas d'action d'un démon ou d'un esprit en eux. Oui ? Ah, ça, c'est le Nouveau Testament. Ça, c'est dans les évangiles. Est-ce que vous trouvez quelque chose d'autre ? Eh bien, si vous ne trouvez pas, c'est normal. C'est normal, parce qu'à aucun moment dans tout l'Ancien Testament, à part peut-être ce cas de Saül, à aucun moment l'Ancien Testament ne fait mention d'un cas de démonisation ou d'exorcisme. Nulle part. Vous pourrez relire tout l'Ancien Testament, il n'y en a pas. Pas une fois. Dans les deux tiers, les premiers deux tiers du message biblique. Ça veut dire quoi ? Ça, on le verra après. On va d'abord finir notre tour d'horizon biblique. On a parlé de l'Ancien Testament, maintenant on va parler du Nouveau. Le Nouveau Testament est composé, grosso modo, de trois parties. On va le découper en trois parties. Tout d'abord les évangiles, les quatre évangiles qui racontent la vie du Christ. Puis le livre des Actes des Apôtres qui raconte la vie principalement des apôtres Pierre et Paul. Et ensuite, tout le gros bloc des épîtres, c'est-à-dire toutes les lettres que les apôtres ont écrites aux églises du 1er siècle. Alors prenons d'abord les épîtres. C'est le plus gros morceau du Nouveau Testament, c'est à peu près deux tiers du Nouveau Testament. Alors qui parmi vous peut me donner un exemple de cas de démonisation rapporté dans les épîtres ? Bien seulement une mention de ce phénomène, ou même une mention d'un phénomène d'exorcisme. Est-ce que quelqu'un a un exemple ? Dans toutes les épîtres, pas les évangiles, pas les actes des apôtres, les épîtres, c'est toutes les lettres, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Romains. Est-ce que quelqu'un a un exemple ? Eh bien, si vous n'en avez pas, c'est normal, parce qu'il n'y en a pas. Dans les épîtres, il n'y a pas un seul exemple de cas de démonisation. Il n'y a même pas la mention de ce phénomène, et on ne parle jamais d'exorcisme. Il y a beaucoup de listes de dons appelés spirituels dans les épîtres. Beaucoup de listes de ces dons que Dieu donne aux croyants pour faire sa volonté dans le monde. Jamais il n'est fait mention dans quelconque don d'exorcisme. Ça n'existe pas dans les épîtres. L'Ancien Testament n'en parle pas, les épîtres n'en parlent pas. Finalement, il ne reste que les actes des apôtres, qui effectivement en parlent quatre fois, et les évangiles, les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui en parlent, par contre, beaucoup plus. C'est beaucoup plus présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Pourquoi ce tour d'horizon ? Pourquoi ces petites questions que je vous pose ? Eh bien, je viens de passer une bonne partie de cette prédication à vous montrer simplement que dans la Bible, la démonisation est tellement rare qu'elle est même carrément, totalement absente de la grande majorité du récit biblique. Tout l'Ancien Testament et toutes les épîtres n'en parlent absolument jamais. Et pourtant, regardez comme ça marque l'imaginaire. Regardez le nombre de films ou de livres qui sont sortis sur le sujet où l'Église, les prêtres, les pasteurs se mettent à lutter contre des démons, à faire des exorcismes par des incantations, avec des objets, de l'eau bénite, des crucifix, plein de choses. Regardez à quel point ça marque l'imaginaire, à quel point beaucoup d'humains sont effectivement souvent effrayés, mais à la fois fascinés par ce phénomène. La Bible, elle, n'en parle presque pas. Sauf durant la vie de Jésus, dans les évangiles, et quatre fois dans les actes des apôtres. Pourquoi c'est absent de la Bible, sauf pendant la vie de Jésus ? Eh bien, tout ça pour une raison très simple. On se rend compte finalement que durant la vie de Jésus sur terre, Dieu a permis une très forte activité des démons en Palestine, de manière ciblée, dans la région où vivait le Christ, pour que Jésus puisse montrer, en chassant ses démons, qu'il était vainqueur sur Satan, qu'il était plus grand que le chef des démons, que ces démons ne pouvaient pas lutter contre lui. et que lui, le Christ, est venu sur terre pour annoncer la fin de l'esclavage des hommes face au mal, face au péché, pour annoncer le pardon, pour annoncer le salut des hommes et la venue du royaume de Dieu, la venue de Dieu lui-même. La période terrestre de la vie de Jésus est très particulière. C'est pour ça qu'il y a une telle activité de la part des démons. Dieu l'a simplement permis pour que Jésus puisse montrer qu'il est Dieu, qu'il est tout puissant et qu'il vient délivrer les humains. J'ai plusieurs fois par le passé entendu des croyants se poser la question suivante, justement, pourquoi est-ce que les démonisations semblaient être aussi nombreuses au temps de Jésus, alors qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y en a pas, ou si peu? Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas y croire ou qu'on refuse de les reconnaître? J'ai vu beaucoup de croyants se poser cette question. Eh bien, voici ce que nous apprend une étude sur le sujet dans toute la Bible, ce parcours que nous avons résumé ensemble ce matin. C'est que le phénomène de démonisation n'est pas que rare de nos jours. Il a toujours été tellement rare que tout l'Ancien Testament et toutes les épîtres n'en font jamais ne serait-ce que la plus petite mention. En revanche, les cas de démonisation étaient nombreux, c'est vrai, durant la période de vie terrestre de Jésus, parce que Dieu l'avait permis dans un but précis, que Jésus manifeste sa puissance, sa gloire, sa divinité, et qu'il montre aux humains que par lui, ils peuvent être délivrés du mal. Une fois qu'on a fait ce tour d'horizon, on comprend alors qu'il ne faut pas nous mettre à voir des cas de démonisation un peu partout, ou à les suspecter de manière très rapide. Mais pour autant, ce n'est pas impossible non plus. Et j'aimerais maintenant qu'on voit, dans les cas qui nous sont rapportés dans la Bible, comment ça se passe. Comment l'éviter en tout cas? C'est ce qui nous intéresse surtout. Alors tout d'abord, ça ne peut pas arriver comme ça, tout d'un coup, à n'importe qui. Tout simplement parce que la Bible nous montre de manière très claire que les démons ne peuvent pas agir sur les humains contre leur volonté. Les démons ne peuvent que suggérer, ils ne peuvent que tenter, ils ne peuvent que encourager à faire le mal. Ils ne peuvent jamais nous obliger, nous forcer à faire le mal. C'est notamment tout l'épisode d'Adam et Ève, tout l'épisode de Caïn. Il y a ce choix, il y a ceux qui servent le mal qui viennent nous donner une alternative au choix de Dieu, au bien. Cette alternative qui est le mal, et les humains font un choix. Malheureusement, dans ces deux épisodes, ils font le mauvais. Mais la Bible nous dit que les humains, certes, ne peuvent pas être obligés, forcés par les démons, mais que les humains peuvent, en revanche, en quelque sorte, leur ouvrir la porte. Je vais utiliser cette expression pas mal ce matin, ouvrir la porte. Les démons ne peuvent forcer la porte de nous, de nous-mêmes, de notre être intérieur, mais nous pouvons, en quelque sorte, parfois la leur ouvrir. Alors, par exemple, il y a un texte très intéressant dans le livre des Actes, au chapitre 19, que j'aimerais vous lire maintenant. Avant de vous lire, je dresse un peu le tableau. L'apôtre Paul a passé 2 ans dans la ville d'Éphèse. Et ces 2 années sont racontées dans le chapitre 19 du livre des Actes. Et il nous est dit que dans la ville d'Éphèse, Paul a justement fait pas mal d'exorcismes. Dans d'autres villes, pas du tout. Et à Éphèse en particulier, beaucoup. Il semblait y avoir beaucoup de cas de démonisation, spécialement dans cette ville d'Éphèse. Et un passage, justement, d'Acte 19, nous donne une explication possible sur la cause de ces cas de démonisation. Et je vous lis au chapitre 19 du livre des Actes à partir du verset 17. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs furent tous saisis de crainte et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. J'arrête là cette lecture. La ville d'Éphèse était un lieu célèbre d'études et de pratiques de la magie ou d'autres pratiques occultes. Et c'est ça qui peut expliquer, et qui explique très certainement, la multiplicité des cas de démonisation dans cette ville. Parce que lorsqu'on s'intéresse, ou qu'on met en pratique ces choses-là, c'est avec des démons qu'on se met en relation. C'est leur pouvoir qui est recherché et qu'on désire obtenir et mettre en pratique. Et lorsque des humains recherchent, désirent le pouvoir des démons, eh bien, ils leur ouvrent la porte, entre guillemets, de leur être. Ils leur permettent d'agir directement en eux. C'est une permission qui est donnée aux démons. Et les démons peuvent alors faire sur ces personnes ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire détruire, ravager la personne. Un démon ne pourra jamais agir en force à l'intérieur d'une personne. Il faut que cet humain lui ouvre son cœur pour que les démons puissent agir. Et là, je vais me répéter, mais c'est très important. Les habitants de la ville d'Éphèse, en tout cas pour certains, ceux qui avaient ces pratiques, ouvraient leur cœur aux démons par des pratiques occultes, par la magie, la divination. C'est-à-dire, ils recherchaient volontairement un accès au pouvoir des démons. J'ai pas parlé de simple colère. J'ai pas parlé de simple jalousie, de simple mensonge qui ouvrirait notre cœur à un démon. J'ai parlé de pratiques occultes où on recherche activement leur pouvoir. Je tiens à préciser ça parce que j'ai quand même souvent entendu des croyants qui avaient peur. Qui avaient peur, au moment où ils se mettent en colère, d'ouvrir leur cœur à un certain esprit de colère. Ou un moment de jalousie, d'ouvrir leur cœur à un esprit de jalousie. En gros, ils pensent que dès qu'on fait un truc pas bien, c'est parce qu'il y a un esprit mauvais, donc un démon qui entrerait en nous pour nous faire agir comme ça. Nous faire agir, nous pousser à la colère, à la jalousie ou au mensonge. Eh bien, c'est bibliquement faux. Et j'aimerais bien que ça soit bien clair. L'apôtre Paul parle assez souvent de colère, de mensonge. Il ne parle jamais d'esprit de colère ou d'esprit de mensonge. Non, il parle juste de colère ou de mensonge. Ces choix que nous pouvons soit réfréner, soit mettre en œuvre. Nous pouvons réfréner une envie de mensonge, la mettre en œuvre, réfréner une colère qui monte ou la mettre en action. Il nous appelle à ne pas pratiquer ce que Dieu désapprouve, à ne pas subir à cette tentation qui vient en nous sans que nous voulions parfois, comme pour le mensonge ou la méchanceté. Il nous appelle à rechercher ce que Dieu désire, il nous appelle à la mettre en pratique, c'est-à-dire à rechercher la joie, la paix, le pardon, la patience, tout ce que le Seigneur désire pour nous. Mais succomber à la colère, au mensonge, à la méchanceté, ce n'est pas ouvrir son cœur à un démon, c'est juste faire le choix du mal sur un moment donné de notre vie, le choix qui se présentait à nous. Ça n'a rien à voir avec la crainte de l'action d'un démon. Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas à avoir peur de ça, dans ces moments de doute que nous pouvons avoir. Cet exemple que nous donnent ces personnes de la ville d'Éphèse, c'est que c'est en recherchant activement un accès aux démons que ces personnes ont ouvert leur cœur à ces démons, et qu'effectivement là, avec cette permission-là, les démons ont pu agir. Mais nous n'avons pas à craindre ces choses-là dans nos vies. D'autant plus que lorsque nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, pour ceux d'entre nous qui l'ont fait, il nous donne alors, nous dit la Bible, son esprit à lui en nous. La place est déjà prise par Dieu qui s'est installé dans notre être intérieur. Les démons peuvent aller voir ailleurs. Le mensonge ou la méchanceté, c'est autre chose. C'est le boulot d'une vie à travailler sur ces trucs-là avec l'aide de Dieu. Mais les démons ne sont pas un problème majeur dans nos vies. C'est même pas un problème mineur, j'aurais envie de dire. C'est pour ça que la Bible en parle si peu. De manière générale, finalement, la Bible nous montre que Dieu protège les humains. Il limite ce que les démons peuvent faire. La preuve qu'il limite en temps normal l'œuvre des démons, c'est que durant la vie de Jésus, il a moins limité leur action et les cas de démonisation se sont multipliés. Mais en temps normal, dans notre vie, Dieu protège les humains. Il limite ce que les démons peuvent faire, mais lorsque l'homme décide lui-même de leur ouvrir la porte, eh bien c'est son choix. Et il doit être confronté ensuite au résultat de ses choix. Finalement, c'est un peu la même chose qu'avec Dieu, qu'avec Jésus. Le Christ ne force pas la porte de notre cœur. Au contraire, il le pourrait. Lui, il en a le pouvoir, mais il ne le veut pas. Il nous est dit dans la Bible que Jésus se présente à notre porte et qu'il frappe. Et si nous décidons de lui ouvrir, il entrera et restera avec nous. Les démons aussi peut-être frappent à la porte, mais ils ne peuvent pas la forcer. Pour qu'ils entrent, il faut leur ouvrir délibérément la porte. Et une fois rentrés, comme je l'ai dit, ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Ils saccagent la personne en elle-même. Alors pour terminer cette prédication, promis, je vous ai dit que c'était la dernière, c'était peut-être la plus sombre, un petit peu dans ce qu'on a dit, j'aimerais finir sur une note un peu plus positive quand même, plus encourageante. Nous voyons finalement qu'on en revient toujours à cette question de la responsabilité humaine et du choix qui se présente à nous. Nous n'avons pas à vivre dans la crainte, parce que rien ne peut nous forcer, nous obliger. Nous sommes donc responsables de nos choix et de nos actes. Dans le début de la Genèse, Adam et Ève ont fait le choix de rejeter Dieu, c'est vrai. Et quand ils ont été pris la main dans le sac, ils ont essayé de rejeter cette responsabilité. Adam, lui, a dit « c'est pas moi, c'est ma femme ». C'est pratique. Ève, lui, a dit « c'est pas moi, c'est le diable ». Parfois, on serait tenté de le dire quand nous faisons le mauvais choix. Mais c'est pas ça. Personne n'a pu nous forcer. Et eux avaient le choix entre suivre la volonté de Dieu et suivre un autre chemin qui n'était pas volonté de Dieu. Ils ont choisi, ils étaient responsables et ils en ont subi les conséquences. Eh bien, de la même manière, lorsque nous voyons de nos jours, à la télé, aux informations, pour certains qui l'ont vécu en direct, des personnes qui pratiquent le mal, même le mal le plus affreux, sachez que ce n'est pas un démon qui agit à leur place. C'est cette personne qui a choisi entre servir la volonté de Dieu et faire le mal. Elle en est responsable. Et elle en subira également les conséquences, nous dit le message biblique. Car Dieu ne supporte pas le mal et il ne le laissera pas impuni dans l'éternité. Nous en revenons encore et toujours au choix. Ce choix que Dieu nous donne de manière très claire dans sa parole, ce choix qui nous est rapporté en Deutéronome chapitre 30, un texte que j'ai déjà lu dimanche dernier, mais que j'aimerais vous relire encore aujourd'hui. Cet appel de Dieu qui nous dit « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester fidèle, car c'est lui qui vous fait vivre. » Recevons cet appel du Seigneur, du Dieu de la vie, de celui qui est parfait amour et parfaite justice, de ce Dieu qui a donné jusqu'à sa vie pour acheter la nôtre. Recevons cet appel du Seigneur qui frappe à notre porte, qui frappe à la vôtre aujourd'hui, ce matin, à chaque instant, et qui attend avec patience que nous lui ouvrions notre cœur. Car lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu, pour recevoir son amour et son pardon, il nous fait un cadeau en plus grand encore. Lorsque nous lui ouvrons notre cœur, il entre, il vient en nous-mêmes, il nous donne son esprit, nous dit la Bible. Cet esprit qui nous guide, qui nous protège, qui nous préserve, qui nous enseigne, qui nous conseille, on en a besoin, et qui nous donne de pouvoir vivre à chaque instant, dès maintenant et pour l'éternité, dans la joie et la paix de la merveilleuse présence de Dieu. Présenté comme ça, le choix a l'air facile, a l'air simple. Et je vous pose une dernière question, est-ce que vous savez pourquoi ce choix a l'air simple? Eh bien parce qu'il est simple. Il suffit de le faire, de faire ce choix. Et puis c'est tout. Ouvrons notre cœur à Dieu. Accueillons le Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Laissons-lui toute la place. Et annonçons aussi également à ceux qui ne le savent pas encore qu'ils peuvent faire ce choix. Appelons-les à le faire. Partageons avec tous nos proches cette bonne nouvelle que la Bible nous annonce. pour qu'enfin se réalise en chaque être humain la prière que l'apôtre Paul fait en 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Et je vous lis juste ce verset pour terminer cette prédication. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Amen.